Chapitre 7. Un tremblement de terre. Tout s'est disloqué en moi. Je ne suis pas capable d'évaluer les dégâts, mais je sens qu'ils sont énormes. D'autant que les répliques sismiques sont nombreuses et n'en finissent pas de fissurer le peu qui tenait encore debout. J'ignore ce que l'on pourra extraire des décombres. Rien d'intact, c'est certain. Cette lettre ne s'est pas contentée de tomber dans ma vie comme une météorite. C'est véritablement un astéroïde qui m'a pulvérisé. Et je parie qu'après ce cataclysme, plusieurs espèces vont disparaître, dont potentiellement une Amandine. C'est horrible. Ma vie tout entière s'est bâtie sur un mensonge. Je me retrouve devant un décor dont les pans sont en train de brûler. Qu'y a-t-il derrière? De quelle réalité suis-je issue? Celle que l'on m'avait présentée n'est pas authentique. Dans la chaîne de la vie, j'étais au moins un maillon. Une continuité dans laquelle j'avais mon emplacement réservé. Mais tout s'est brisé. Je ne suis plus qu'un ajout sorti de nulle part qui ne trouve sa place dans aucune lignée. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de l'importance que cela avait avant d'en être privé. Je me jugeais déjà laborieuse à prendre confiance en moi. Peu à peu, je parvenais pourtant à m'accepter en définissant ma personnalité. À défaut d'oser encore l'affirmer, je devenais capable de lui permettre d'éclore. On m'a expliqué que pour enfin devenir soi-même, il faut un peu d'expérience, une épaule sur laquelle s'appuyer et le courage d'apprendre de ses erreurs. J'ai souvent été nourrie de principes sans doute très sages et j'ai reçu de nombreux conseils pertinents. Mais aucun ne tient face à ce que j'affronte. Mes parents m'ont menti. Ma vie n'est pas ma vie. Cela me révolte, mais plus encore, cela me ravage. Mes repères s'écroulent les uns après les autres à mesure que je prends conscience des implications de cette révélation. L'onde de choc n'en finit pas de me dévaster. Mon enfance, autrefois heureuse, me donne l'impression de se déliter, dissoute par le mensonge. J'en veux terriblement à ma mère. Cela ne m'était jamais arrivé. En termes de rancœur, je suis passée de 0 à 100 en moins d'une journée. C'est lent pour un bolide de Formule 1, mais pour un humain, c'est le mur du son. Avant, j'affrontais mes doutes et mes angoisses adossées à un mur que je pensais solide. J'avais ma base, mes fondations, je me sentais protégée et stable. Trois mots auront tout dynamité. Ma fille naturelle. Toute mon énergie m'a abandonnée. Je ne ressens plus rien. Sèche. Cela a commencé dans le train du retour. Je suis rentrée comme un zombie et depuis j'ai en moi autant de chaleur qu'un bloc de granit. Plus aucune empathie, plus goût à rien. Je suis un champ de gravats. Pas envie de me plaindre, plus envie de hurler. Je veux juste qu'on me laisse tranquille dans mon trou. Mes patates m'ont envoyé des messages pour savoir si j'avais hérité d'une fortune, mais même à elles je ne veux pas parler. De toute façon, je ne saurais pas comment leur raconter ce qui m'arrive. Trop destructeur. Ce matin, au magasin, ils se sont tous demandé ce qui m'arrivait. D'habitude, on rigole bien. En plus, on commence à recevoir les articles de Noël, et Nino a toujours des idées de mise en scène extravagantes pour nos vitrines. Les clients adorent et les attendent. Comme il le résume parfaitement, chez Soldero, on vend des cochonneries, mais on le fait bien. Quand il a cherché à brancher une grande décoration de jardin en forme de biche éclairée de l'intérieur, il s'est électrocuté. Tout le monde était plié. Je n'ai pas bronché. Flavie, toujours à la pointe du combat social, surtout quand ça lui profite, a aussitôt tenté de convaincre les autres de se mettre en grève pour cause de biche non conforme. En tant que manager adjointe, je n'ai pas réagi. Elle a du coup forcé sa chance en se négociant, pour elle toute seule, un aménagement de son temps pour les fêtes. La biche s'est mise à clignoter. On ne sait pas si c'est normal. Peut-être est-elle conçue ainsi. Peut-être va-t-elle exploser. Ça m'est égal. Nino m'a dit qu'il y avait aussi des gros écureuils dans l'arrivage. Selon lui, ils sont si laids qu'ils vont traumatiser les enfants. Des écureuils. J'ai peut-être une cabane pour eux. Je suis affalée dans mon canapé. J'ai coupé mon téléphone et je n'ouvrirai à personne. Je n'arrive même pas à voir net, ce que j'ai devant moi. Un clown en feu pourrait passer dans mon salon en jonglant que je ne m'en apercevrais pas. Trop à faire dans ma tête. J'ai essayé de me concentrer sur la photo du chaton et du papillon. J'ignore pourquoi. Peut-être une sorte de test pour vérifier si les sentiments qui ont résisté jusque-là répondent encore présents. J'ai fixé le cliché. Je me suis efforcée de me souvenir de l'effet qu'il produisait en moi. Les résultats ne sont pas bons. Électrocardiogramme plat. Pas un seul coup sur les tuyaux donné par un sentiment survivant coincé sous les décombres. Pour la première fois depuis que je l'ai, l'image m'a laissé de marbre. Je n'ai même pas pu garder le petit cadre à la main tellement l'objet me brûlait les doigts. Cette photo symbolise tout ce qui vient de voler en éclats. Mon innocence, la confiance, une idée éternelle que je me faisais de l'affection. Mon père qui me l'avait offerte, témoin d'une enfance idéale. Ce n'est plus que la relique froide d'un monde qui n'en finit pas de m'échapper. Mon père. Parlons-en. Dans les ruines de mon esprit, j'entrevois que l'épicentre du séisme se situe exactement sur lui. Était-il au courant que je ne suis pas vraiment sa fille? Si oui, tellement de questions se posent. Sinon, tant d'interrogations me viennent. Quel rôle ma mère a-t-elle joué dans cette comédie, hormis de coucher avec M. Christophe François-Olivier Bélanger? Quant à ma sœur, ma situation explique-t-elle nos si grandes différences et le fait que Romane et moi n'ayons jamais été très proches? Elle est certainement l'enfant de nos parents, elle. J'aurais cependant bien aimé ne pas être la seule sur ce radeau à la dérive. Je repense à tous ces gens qui, quand j'étais toute petite, se croyaient obligés de rabâcher sans cesse que je ressemblais à celui qui en réalité ne m'a pas conçue. Que j'avais la même démarche que lui quand il était bambin. Était-il complice ou simplement aveugle? Je les déteste. Pas un secteur de ma vie, pas un recoin de mon identité n'est épargné par l'incendie qui fait rage. Même si je ne parviens pas à m'en remettre, il faudrait au moins que je comprenne. En attendant, je n'en parlerai à personne. Je vais vivre en marge, en prétextant auprès de chacun que je suis débordée avec les autres. Moi qui n'ai jamais voulu être seule, je ne souhaite plus que cela. Sûrement un signe de bonne santé. Une évidence se fait jour dans mon esprit calciné. Maître Jean de Serre s'impose paradoxalement comme l'être dont je me sens le plus proche aujourd'hui. Je ne le connaissais pas lundi dernier, mais il incarne désormais à lui seul le peu de confiance que je peux témoigner à quelqu'un. Il est finalement l'unique personne à savoir ce qui m'arrive réellement. Le seul qui sache qui je suis, alors que moi-même je ne le sais plus. Un seul point m'incite encore à ne pas me laisser dépérir sur place. Je veux aller voir ce que mon géniteur m'a légué pour que l'on partage malgré tout quelque chose.